Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Lascoum, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est rattaché au Centre d'études européennes de Sciences Po. Pierre Lascoum est un spécialiste bien connu de cette discipline de sciences politiques qu'on appelle l'analyse des politiques publiques. Mais comme il est docteur en droit, il a également la compétence du juriste et il a également aussi la compétence du sociologue. Il a publié des thèses, mais également des ouvrages de droit, un livre sur Max Weber et la sociologie du droit. Et pour ce qui nous intéresse, depuis quelques années, pour cette séance, depuis quelques années, il a commencé à réfléchir à ces problèmes des rapports de la corruption dans les démocraties. Pourquoi y a-t-il des formes de tolérance à la corruption? Comment les comprendre? Comment les analyser? Et ça va être l'objet de sa conférence. Je rappelle aussi qu'indépendamment des ouvrages de politique publique très nombreux, il a publié une quinzaine de livres qui ont été édités sous son nom. Il a également publié des travaux consacrés à des transformation de la démocratie contemporaine, et notamment avec Michel Calon et Yvan Barthes, un livre qui s'appelle « Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique », qui est un des ouvrages qui a renouvelé, je dirais, l'analyse de la démocratie participative, et notamment en se fondant sur les expériences de jurys citoyens ou de forums hybrides liant des citoyens et des savants. Pour son travail sur la démocratie, il a également publié avec Patrice Le Gallès un ouvrage qui fait référence concernant les problèmes de la gouvernance. Sur ceux qui s'intéressent aux questions de la gouvernance, je vous invite à lire cet ouvrage qui a pour titre « Gouverner par les instruments », qui est un des ouvrages un peu clés de la littérature sur le sujet. Le principe de ces séminaires, c'est que l'invité ne parle pas simplement des travaux qui sont derrière lui, mais de ceux qui sont devant lui. Et Pierre Lascoum est en train de préparer un ouvrage sur ces questions de la corruption dans les démocraties. Et donc, aujourd'hui, il va nous présenter en quelque sorte les premiers linéaments de ce qui sera un ouvrage, je pense, à paraître à l'automne. Voilà, ben merci Pierre, vous avez la parole.
Merci beaucoup Pierre de cette invitation, donc de me donner l'occasion un peu de faire un point pour moi général, mais en même temps de vous restituer disons une sorte un peu de panorama de réflexions qui vont très au-delà des travaux que l'équipe à laquelle je participe ont pu mener, c'est-à-dire des travaux qui sont finalement menés depuis, vous le verrez, depuis le début du XXe siècle, en particulier aux États-Unis, un peu partout dans le monde, donc sur ce sujet qui peut être formulé, disons, de la façon suivante. Il y a une énigme de la démocratie, il y a peut-être même un paradoxe, qui réside dans le fait que une majorité de citoyens, et je préciserai ça tout à l'heure, portent globalement des jugements sévères, voire très sévères, aussi bien sur le personnel politique que sur les fonctionnements politiques, fonctionnement administratif, fonctionnement des institutions, et en même temps coexiste une assez grande tolérance à l'égard de toute une série de comportements déviants par rapport à des normes idéales de ce que serait le bon gouvernant, mais quelquefois aussi de comportements plus explicitement transgressifs, c'est-à-dire sanctionnés ou sanctionnables par des normes juridiques et parfois par des normes pénales. Et que donc, on se trouve dans une situation qui est souvent, et ça a été le point de départ de ma réflexion, et c'est un peu le ressort de ma motivation à me lancer dans ce type d'investigation, qui est d'essayer de comprendre, au-delà, disons, de l'anecdotique et la vie politique toute récente, je ne développerai pas d'exemple, lié à la campagne régionale, nous montre bien comment régulièrement apparaissent des mises en cause de tel ou tel, où on entend un ministre en charge d'un vaste secteur dire que de toute façon, pour il ou pour elle, la priorité est d'affecter des fonds à son territoire. Vous voyez, des formes de, on peut dire, de dépassement des règles de fonctionnement démocratique, et qui en même temps donc suscite des niveaux de réaction relativement faibles, et que donc existe un niveau élevé de tolérance à l'égard de toute une série de transgressions. Alors, la difficulté du sujet, au départ, pour moi, elle était double, et c'est pour, disons, essayer de contourner ou dépasser ces difficultés que j'ai essayé de développer, on peut dire, un questionnement de sciences sociales sur ce domaine-là. Le premier écueil, eh bien, c'est le moralisme, et nous sommes tous des moralistes à la petite semaine, quand nous écoutons la radio, quand nous sommes avec nos amis autour d'un café ou d'une table de restaurant, l'indignation vient tout de suite, mais tu as encore entendu ce qu'il a dit, ce qui se passe, etc. On a tous, tout de suite, dans notre esprit, c'est clair, enfin, tout ça est insupportable, c'est contraire à la démocratie. Donc, il y a une sorte, vous voyez, de prêt-à-penser qui est extrêmement prégnant et qui donc, évidemment, est un obstacle majeur pour mener une réflexion de scientifique, de sciences sociales. L'autre grand écueil, c'est, on peut dire, l'écueil normatif ou prescriptif. Nous sommes aussi, les uns et les autres, très facilement, nous nous voyons dans le rôle du ministre, du Premier ministre, du Président de la République, et si j'étais là, je ferais ça, et il faudrait des règles, il faudrait sanctionner, il faudrait, vous voyez, très facilement, dans ce domaine-là, on peut dire, la guillotine, le bataillon d'exécution, la flagellation en place publique, enfin, tout cela vient très facilement, et on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais assez de normes. Voilà. Et dans beaucoup d'écrits, c'est aussi pour ça que je souligne ce point, beaucoup de travaux qui sont faits, en particulier aujourd'hui par l'Union européenne, par l'OCDE, par la Banque mondiale, etc. On voit bien à quel point, très rapidement, partant de constats que beaucoup de gens peuvent partager, partant de mesures, d'enquêtes, etc., finalement, la moitié, les trois quarts du discours qui est développé est un discours prescriptif, hein, au nom d'un idéal de, pour reprendre l'expression qu'a mentionné Pierre tout à l'heure, au nom d'une bonne gouvernance, on ne sait pas très bien tirer d'où, mais qui justement serait respectueuse de principes de transparence, d'égalité, de non-discrimination, etc. Donc, c'est aussi une des difficultés, c'est que beaucoup de travaux qui sont écrits, de réflexions menées, on peut dire, par des instances puissantes, sont donc fondamentalement des travaux prescriptifs. Or, de mon point de vue, ni le moralisme, ni les perspectives normatives et prescriptives ne peuvent tellement nous aider à comprendre ce paradoxe selon lequel, malgré tout le mal ou toutes les critiques que beaucoup de citoyens adressent à leurs élus et à leurs représentants, on doit prendre acte du fait que beaucoup aussi leur maintiennent la confiance, une confiance, et votent pour eux, et que même, les travaux ont montré, que même souvent l'image même de ces personnels mis en cause, voire condamnés, ne se trouve pas, au fond, tellement dégradée par les mises en cause successives. Alors, à partir de cet écueil, donc moi j'ai essayé de me poser deux types de questions pour déplacer le regard, essayer de penser les choses un petit peu autrement. La première, c'est d'essayer, et vous verrez que je me suis appuyé sur une assez longue littérature que je résumerai, de développer une démarche compréhensive, c'est-à-dire de ne pas partir du postulat qu'il est aberrant que des citoyens continuent à voter pour prendre un cas extrême, des élus qui ont déjà été condamnés ou dont les élections ont été annulées pour des raisons X ou Y. Mais plutôt essayer de se dire, mais mon Dieu, mais comme c'est intéressant, c'est complètement contradictoire avec toutes les valeurs que certainement ces mêmes personnes promeuvent à un niveau général par rapport à l'idéal de démocratie qu'elles ont, et cependant, leur comportement est un comportement qui est un comportement de tolérance, d'excuses, etc. Et vous verrez que quand on fait quand on mène des enquêtes et que l'on justement se met dans cette situation d'attitude compréhensive disons des points de vue et des pratiques des gens, on peut être amené à reconstituer, on peut dire des logiques d'action qui sont des logiques d'action un peu inattendues, un peu plus compliquées. Mais malgré tout, celles qui sont opératoires. Puis la deuxième chose que j'ai retenue comme, dans ma réflexion comme axe prioritaire, on pourrait dire c'est une démarche relationnelle. Regardez bien, je parle par exemple pour moi par rapport à ce que j'ai entendu à la radio encore hier soir, à quel point, dès qu'il est question d'atteinte à la probité, de transgression de règles publiques, etc., c'est forcément haro sur le responsable politique. Le discours est immédiatement personnalisé. On regarde le casier judiciaire de X ou de Y, on décortique les propos de P ou de T. Et cette focalisation sur l'élu qui finalement, dans une sorte de représentation mythique, devrait être l'incarnation de toutes les vertus, de toute la cohérence démocratique, etc. En fait, cette focalisation, de mon point de vue, elle est complètement trompeuse, parce qu'elle fait l'économie d'une chose, c'est que la politique, c'est d'abord une relation. Et quand on parle de... C'est difficile d'avoir une relation simplement avec soi-même. On connaît évidemment des gens, mais on peut considérer que c'est une forme de pathologie d'avoir strictement une relation seulement avec soi-même. Mais donc, normalement, quand on parle de la politique comme une relation, c'est aussi l'idée que le fonctionnement des institutions démocratiques repose sur des pratiques de délégation, que dans cette délégation, il y a un certain nombre de responsabilités et que ces responsabilités doivent s'accompagner d'un certain nombre de contrôles. Donc l'élu ou le représentant n'est pas seul, il n'est pas détaché, on peut dire, du monde social. Il y a toute une série de liens qui le rattachent ou qui doivent le rattacher à l'ensemble des citoyens. C'est pour cela que cette focalisation qui est faite sur les personnes, sur la qualité, les qualités, les vertus attendues du personnel politique, me semble mal poser le problème, ou le poser au moins partiellement, puisque, et je développerai ça, c'est un de mes arguments, c'est que le personnel politique exerce sa fonction dans des relations, dans tout un système d'échanges, d'interdépendance, d'interconnaissance, et que les citoyens ne sont pas strictement passifs face à leurs élus, ils sont au contraire, pour une grande partie d'entre eux, ou une partie d'entre eux, des solliciteurs, ils font des demandes, ils écrivent, ils demandent des rendez-vous, ils essaient d'obtenir des appuis, etc. Et que donc la relation politique est une relation qui est certainement une relation difficile dans ce sens-là à tenir, au sens où il y a à la fois à concilier un ensemble de principes légaux, de principes éthiques, on peut dire liés à la République, comme l'impartialité, le respect de l'égalité, etc., mais en même temps aussi toute une dimension, on peut dire, pragmatique, dans la mesure où les citoyens attendent bien souvent de leurs élus, globalement, d'abord des résultats, qu'ils fassent quelque chose, et deuxièmement, attendent aussi, dans un certain nombre de cas, qu'ils résolvent des problèmes pour eux, qu'ils soutiennent une demande, qu'ils les aident à régler une situation, etc. Donc ça se passe bien dans une relation, et c'est cette relation qui, de mon point de vue, n'est pas assez explicitée, pensée, travaillée. Alors, à partir de ces deux points de vue, donc une démarche compréhensive et une démarche, on peut dire, une perspective relationnelle, donc, pour faire simple, disons que moi, je travaille à partir de deux hypothèses, un petit peu simples, mais ça aide, ne serait-ce que pour les relativiser. Hein. Première hypothèse, c'est que, de mon point de vue, il y a un lien fort entre la façon dont les citoyens se représentent la fonction politique et le rapport qu'ils auront aux atteintes à la probité ou à la corruption. Et que c'est en fonction, vous voyez, j'essaie de retourner les choses, je me dis que c'est en fonction de la façon dont des individus ou des groupes perçoivent le rôle de leur maire, de leur député, de leur conseiller général, etc., qu'ils, finalement, choisiront, détermineront, porteront un jugement sur quels sont les comportements acceptables, quels sont ceux qui posent problème et quels sont les comportements qui sont répréhensibles ou qui sont hors des comportements acceptables, hors des, disons, des normes attendues. Et puis, et que c'est donc cette perception qui permet de nuancer finalement l'évaluation, le jugement que les citoyens portent sur les pratiques de leurs gouvernants. Et puis ma deuxième hypothèse, elle est donc ce qu'on serait content d'avoir, bien évidemment, les réactions de Pierre-Rosan Vallon sur ce sujet. Elle est un peu plus ambitieuse. Elle consisterait à dire que finalement, non, ça comme ça, parlant de la culture civique française, ou la culture politique, mais moi je préfère parler de culture civique, donc dans la conception dont finalement on exerce ses mandats de citoyen, il y a une tension considérable, je dis une tension, non, ça peut être une contradiction, mais je préfère c'est plus dynamique de le dire en termes de tension, entre une conception, on peut dire, française très classique. Nous sommes tous des hyper-légalistes, nous vivons assis sur les codes civils, le code pénal, il y a des règles, elles sont faites pour être respectées, nous sommes tous des gendarmes dans l'âme. Et en même temps, une assez forte capacité de rechercher, hein, pour soi-même, ou de tolérer, des comportements qui sont des comportements, pour employer un mot un peu vague, des comportements d'arrangement avec les règles, pour le dire un peu plus durement, d'obtention de passe-droit, de moyens finalement d'obtenir du politique un certain nombre d'avantages qui, par rapport aux préoccupations actuelles des travaux de Pierre-Rosan Vallon, sont typiquement des ruptures d'égalité. Et les citoyens estiment toujours qu'ils ont de bonnes raisons pour que l'on fasse des exceptions pour eux. Que c'est presque un droit qu'ils exercent vis-à-vis de cette bureaucratie qui écrase, qui est impersonnelle, abstraite, qui ne sait pas tenir compte des conjonctures particulières, etc. etc. Donc, pour moi, il y a une tension, on peut dire, entre une sorte de, en poussant un peu, d'hyperlégalisme théorique, qui s'applique comme ça, décompose des diagnostics généraux, et puis d'autre part, dans les pratiques concrètes, une assez grande tolérance, mais même quelquefois une capacité soi-même, à finalement obtenir des accommodements des règles et à influer sur des décisions qui avantagent les citoyens eux-mêmes, leurs proches, etc. Donc voilà les deux hypothèses que, bien évidemment, j'espère que mes conclusions aboutiront à dire qu'elles sont inexactes, puisque en sciences sociales, c'est quand même ce serait extrêmement, un résultat tout à fait original que de poser des hypothèses qui ne seront pas vérifiées, alors que c'est propre des sciences exactes de pouvoir faire ça. Fermons la parenthèse. Juste avant de rentrer un peu plus dans les détails, c'est une façon de le faire, d'abord quelques éléments de définition, préalable. Disons que par facilité de langage, parce que c'est comme moi, comme vous, nous avons dans la tête, dès qu'on parle corruption, en gros, on voit bien de quoi il s'agit, mais quand je l'emploie, bien que je l'emploie avec des guillemets, c'est-à-dire que je l'emploie à tort, voilà, hein, puisqu'en fait, en fait, c'est une facilité de langage, puisque derrière ce terme, hein, on peut dire que l'on désigne tout un ensemble de comportements sanctionnés, donc sanctionnés par des règles, ou bien perçus, hein, en termes de déviance, comme des abus de fonction. Et ces abus de fonction commis par des agents publics. Des agents publics qui soient des élus, des ministres, des fonctionnaires. Donc, pour moi, le terme qui me semble le plus adéquat, qui est d'ailleurs celui qui est retenu dans le code pénal, hein, s'appelle les infractions d'atteinte à la probité publique, hein, qui inclut un ensemble d'infractions dont la corruption, la concussion, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et différentes formes, on peut dire, de fraude, par exemple, au marché public ou de détournement d'argent public. Donc, vous voyez, il y a un vaste ensemble, disons, de comportements sanctionnés qui existent. Voilà, je les subsume, disons, sous cette expression de atteinte à la probité et quelquefois en parlant par facilité de langage, vous m'excuserez, quelquefois je dirais corruption, voilà, à tort. Hein. Mais ce qui fait aussi la difficulté de cette définition légale, c'est qu'elle est incomplète. Parce que, à côté de ces comportements qui sont des comportements, on peut dire, définis par le droit, avec des éléments matériels, des éléments intentionnels, etc., existe aussi toute une série de comportements qui sont des comportements qui posent problème, si vous voulez, ou qui peuvent poser problème à certains, mais pas à d'autres. Et un peu plus loin dans mon exposé, je vous parlerai donc d'un auteur américain qui s'appelle Heidenmeier, qui a formulé cette très jolie expression à propos de la corruption. Il parle des zones grises. Il dit voilà, hein, on verra ça. Donc il y a toute une partie de zones grises, c'est-à-dire des comportements sur lesquels existent des controverses. Est-ce répréhensible ou pas? Est-ce que cela entre dans la fonction ou pas? Est-ce un débordement? Y a-t-il une rupture d'égalité entre les citoyens? Les jugements sont diversifiés. Et on peut, pour employer des termes bien connus, tout ce que l'on peut mettre sous les intitulés clientélisme, favoritisme, etc., relève bien de cette catégorie-là, c'est-à-dire des pratiques qui suscitent des réactions, des jugements, et qui en même temps, la plupart du temps, ne sont pas des comportements sanctionnables. Donc vous voyez, déjà le champ des pratiques qui nous intéressent reste indéterminé, et on voit bien à quel point la question des perceptions, mais aussi des contextes dans lesquels des problèmes vont apparaître, le type d'acteurs qui vont se mobiliser, soit pour les atténuer, soit au contraire pour les dramatiser, tient un rôle considérable. Deuxième point de mon introduction, simplement pour rappeler ce paradoxe, hein, enfin, et le préciser plus exactement. Donc d'abord sur la sévérité des jugements portés par les citoyens sur leur personnel politique et leurs institutions, je ne vais pas multiplier les chiffres, mais je ne vous en donne que quelques-uns, français mais aussi européens, pour montrer que ce n'est pas simplement un problème national, mais bien un problème qui concerne la plupart des démocraties. Les sondages sont ceux qui sont, mais prenons-les comme un indicateur parmi d'autres. Voilà, hein. Une question est posée par les instituts de sondage, aussi bien en France, puis maintenant dans le réseau européen des enquêtes European Social Survey, depuis les années 70. La question est très simple, un peu simpliste. Les hommes politiques sont-ils plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ? 1970, 38% répondaient que le personnel politique était plutôt corrompu. 20 ans plus tard, 90, 55%. Et vous voyez, 90, c'était le début des grandes affaires en France sur le procès des financements, essentiellement du Parti Socialiste et puis d'autres. 2000, après la série de longs procès qu'on a connus pendant la décennie 90, le maximum, 64%. Hein, et depuis, disons, la période récente, donc notre enquête et puis un baromètre qui vient d'avoir lieu en 2010, on est toujours au-delà de 60%, entre 60 et 62% des citoyens qui considèrent que leurs élus sont plutôt corrompus. Quand on une autre question que finalement moi je trouve presque plus inquiétante que celle-là, c'est quand on demande de faire une comparaison dans le temps, il y a à peu près le tiers des citoyens qui répondent qu'aujourd'hui, en France, la France est plus corrompue qu'avant. C'est 32 et quelques, mais je dis 33, le tiers, hein, c'est ce qu'il faut retenir. 60 et quelques pourcents trouvent que ça ne change pas, et que la France est moins corrompue, moins de 5%. Quand on regarde les personnels politiques, on se rend compte que de très loin, les acteurs qui sont perçus comme étant ou pratiquant le plus la corruption sont de loin les partis politiques, puis viennent plus de 40%, puis les milieux bancaires et financiers, presque 25%, et les autres acteurs assez bas, tous au-dessous de 10%, et en particulier en France, une très bonne image de l'administration publique, puisqu'il n'y a à peu près que 5% de la population qui considère que l'administration est plutôt corrompue. Quand on regarde en Europe, on se rend compte que la France se situe... c'est des domaines dans lesquels on ne peut pas dire qu'il y ait de milieu ou de moyenne. Mais enfin, elle se situe plutôt dans le groupe des pays dans lesquels les citoyens estiment que leur personnel et leurs institutions politiques sont, plutôt corrompues, et en particulier au niveau national. Dès que l'on s'approche des institutions locales, surtout la question des maires, le niveau, de répréhension ou de sensibilité ou de perception du niveau de corruption est plus faible. Et donc la France se situe à peu près à un niveau équivalent à la Grande-Bretagne, quelque chose près. Hein. Et les pays qui sont considérés, dont les citoyens considèrent que le pays est le moins corrompu, sont les Pays-Bas et la Suède, avec des résultats un petit peu étranges pour le Danemark et la Finlande, où les citoyens ont une perception aussi très négative de leurs institutions. Donc voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais ça ne renforce pas, l'argument. Donc, on peut partir de cette situation qui est l'importance des jugements négatifs portés sur les citoyens et sur les institutions. En même temps, et c'est l'autre partie du paradoxe, c'est que toute une série de travaux, mais aussi de situations concrètes au moment, par exemple, d'élections, ont montré que des élus qui avaient été condamnés, qui avaient effectué leur peine ou leur période d'inéligibilité et qui revenaient en politique, étaient le plus souvent réélus, que des élus qui se présentaient alors qu'ils sont mis en cause dans des procédures actuelles sont aussi assez facilement réélus. Et un résultat récent qu'un de mes collègues, Jean Chiche, a obtenu, il fait depuis maintenant une dizaine d'années le suivi des élections municipales qui ont été annulées par le Conseil d'État pour fraude sur les règles électorales. On se souvient, dans le Midi, de l'histoire de la chaussette et tout ça, il y en a plein d'autres. Résultat, donc l'élection est annulée, nouvelle élection, 3 cas sur 4, l'élu dont l'élection a été annulée est réélu. Voilà. Alors, il y en a... donner beaucoup d'exemples comme ça. Puisque nous sommes dans un cadre historique, je pense que je peux aussi rappeler qu'évidemment, ce n'est absolument pas une nouveauté. et qu'un des meilleurs exemples que l'on peut avoir, ou des plus complets, réside dans la trajectoire politique de quelqu'un dont le nom s'est un peu perdu dans l'histoire, qui s'appelle Daniel Wilson, mais qui a eu son heure de gloire à la fin du 19e siècle, parce qu'il était le gendre du président Jules Grévy. Et ce Daniel Wilson, qui était donc député du département, enfin il était maire de Loches, donc de la Loire, avait été député, et finalement, après un scandale, deux procès, etc., sera finalement réélu et finira sa carrière au Parlement. Alors que donc il avait été mis en cause pour une affaire qui est connue sous le nom du scandale des médailles, puisque en gros il faisait rétribuer ses interventions pour l'attribution de la Légion d'honneur et de toute une série d'autres choses, et surtout il avait, c'est peut-être l'élément qu'il faut retenir, vous voyez, ça va au-delà de la personnalité de ce personnage, c'est qu'il avait créé une petite cellule, il y avait une organisation au sein de l'Élysée, et il tenait une sorte de bureau des interventions qui a très très bien fonctionné. Et quand le scandale a éclaté, donc ça a débouché quand même sur la démission du président Jules Grévy, mais lui, finalement, pour des raisons, si vous voulez, on pourra y revenir, qui sont assez intéressantes, a échappé à toute condamnation, hein, mais en même temps, cette affaire-là a permis, on peut dire, à la démocratie de progresser dans un certain sens, puisque c'est pour finalement combler une lacune dans le droit pénal que l'on a créé l'infraction de trafic d'influence, puisqu'au fond c'est ce qu'il faisait, il trafiquait de l'influence. Il n'accomplissait pas des actes d'escroquerie et il n'accomplissait pas des actes de corruption, mais il faisait du trafic d'influence. Ce n'est qu'à l'époque, cette activité-là n'était pas pénalement sanctionnable. C'est pour ça qu'il a légalement échappé à toute condamnation. Donc, simplement pour dire que ces cas d'élus mis en cause, sanctionnés, auxquels finalement les jugements communs, qu'ils soient moraux, légaux, etc., tous ces comportements que l'on peut considérer comme répréhensibles, ne suscitent pas automatiquement, hein, ce que l'on attend du citoyen rationnel, c'est-à-dire un refus de vote. Et que finalement, si on retient mon hypothèse compréhensive, c'est que donc il y a bien d'autres liens, d'autres facteurs qui lient les citoyens à leurs représentants, et que les critères qui leur sont appliqués, qui sont appliqués aux élus ou aux candidats, ne sont pas en première ligne ces critères moraux ou ces critères juridiques. Alors, je procéderai en deux temps. Pour approfondir tout cela. Dans un premier temps, puisque je pense que c'est un peu la commande que m'a fait Pierre Rosanvallon, donc c'est de présenter un peu de façon générale une sorte d'approche historique de l'histoire des idées sur finalement les interprétations de ce paradoxe. Donc je vais faire ça en 4 ou 5 points, montrer finalement comment des auteurs, des groupes d'auteurs ont essayé de penser ce paradoxe de l'importance des jugements négatifs s'accompagnant de formes de tolérance. Et puis, dans un deuxième temps, en fonction du temps qui me restera, je vous présenterai des éléments de recherches récentes qui ont été faites en France, mais qui aussi commencent à être faites ailleurs en Europe, et voir un peu dans quelle mesure les hypothèses que j'ai posées au départ se trouvent ou non validées. Alors tout d'abord, sur les lectures que l'on peut faire de ces situations. On peut considérer que, même évidemment, s'il y a toujours des antécédents, et je sais qu'il y a ici un certain nombre d'érudits qui ne manqueront pas de me dire que dès le XVIe siècle, ou dès le, tout ça avait déjà été dit, mais bon, moi je n'ai pas de prétention historique. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que, en gros, le problème est vraiment posé dans des termes modernes, contemporains, aux États-Unis, tout à fait à la fin du XIXe siècle, par quelqu'un qui s'appelle Lincoln Stephens. Qui, en 1902, publie un livre qui est un véritable choc aux États-Unis et qui s'appelle « Shame of Cities »,« La honte des villes ». Et il a fait une étude, il est journaliste, d'investigation dans 6 grandes villes américaines dans lesquelles il est allé observer le paradoxe que j'ai présenté en entrée, qui est le fait que des équipes municipales qui avaient été marquées par de très graves affaires de corruption, dans laquelle il y avait eu des condamnations, etc., surtout aux États-Unis à cette époque-là, vous voyez, c'était pas du petit favoritisme, quoi, hein, c'était ce qui était en cause, c'était le lien avec des organismes mafieux, des enrichissements très importants, de la spéculation immobilière, etc., etc. Donc, toute une série d'affaires qui, dans ces six grandes villes américaines, avaient dans un premier temps entraîné des démissions, éventuellement même un changement dans la politique, dans la gestion de la ville, et puis rapidement, aux élections suivantes, un retour de ceux qui avaient été finalement condamnés pour, atteinte à la probité. Et ce que j'ai trouvé intéressant, si vous voulez, c'est que c'est une perspective qui est moraliste, il s'appuie beaucoup sur la tradition, disons, puritaine américaine, il met l'accent sur deux problèmes, un problème qui est, on peut dire, assez évident. On parle de ces affaires, ce type de situation, qui est le problème que pose l'accaparement individuel ou par des groupes privés de ressources publiques, au profit, donc, ce qu'on appelle là-bas, des machines électorales, le boss système, etc. Hein. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il, d'entrée, il élargit son propos, et pour lui, ces pratiques-là, mais pas simplement, quand il dit pratique, c'est aussi les attitudes des électeurs, c'est-à-dire la tolérance que les citoyens continuent à attribuer ou à maintenir à l'égard de ces équipes mises en cause. Pour lui, c'est une détérioration de l'esprit public en fonction, dit-il, de la montée croissante de valeurs matérialistes, de critères de jugement basés sur la réussite économique. Et donc, en gros, il dit que la tolérance des citoyens s'explique par le fait que ces équipes, au fond, sont efficaces, hein, qu'elles ont produit des choses, hein, voilà, et que la fin justifie les moyens. Pour résumer un peu cet argument. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est une atteinte au fondement de la démocratie qui s'observe, hein, et pas simplement dans le comportement des élus, mais également dans la tolérance des citoyens. Un autre courant complémentaire donc, se développe à peu près dans la même période, dont un des principaux leaders s'appelle Henry G. Ford, lui fait toute une série de travaux, plutôt car c'est un juriste, il publie des articles sur la corruption municipale. Et ce que j'ai retenu comme intéressant dans son point de vue, c'est que pour lui, il rejoint Stephens cette idée d'abord qu'il y a une détérioration des bases de la démocratie, une diminution du sens civique, etc., et que pour lui, vous voyez, explicitement, il présente la démocratie comme un chantier toujours en train de se faire et de se défaire. et que donc, pour lui, il doit y avoir une exigence permanente de rappel des règles, de réaction, de sanctions, sans quoi l'apathie, voire l'anomie s'installe. Et pour lui, la tolérance, donc lui, ce qui met bien en question, c'est la tolérance des citoyens à l'égard de comportements transgressifs, pour lui, est une menace fondamentale de la démocratie. Et il rajoute, il explique cela à sa façon en disant, on peut dire presque de là que j'ai tiré ma première hypothèse, qui est que pour lui, le soutien électoral que beaucoup de citoyens continuent à accorder à des élus mis en cause ou plus que cela, provient du fait que les citoyens perçoivent leurs élus et leurs représentants comme des fournisseurs de services, qui leur doivent quelque chose. Et pour Ford, ça lui semble aux antipodes de l'esprit civique. Et lui, sa conclusion, c'est que, vous voyez, donc on tombe assez rapidement on va vers le normatif. Donc, dans le contexte américain, pour lui, ce qui est important, ce qu'il propose, c'est toute une série de réformes institutionnelles avec des autorités centralisées, plutôt de type fédéral, dotées de pouvoir, de contrôle. Et puis, dans le sens très weberien, il a fallu beaucoup de temps aux États-Unis pour finalement établir, qui est la mise en place au niveau municipal d'une administration technique professionnalisée qui soit bien différenciée des autorités politiques et des responsables économiques, et que la question de l'autonomie de l'administration, grande question classique, est pour lui une des façons de répondre à cela. Une troisième perspective se développe, disons, au milieu des années 50-60 aux États-Unis, avec le développement de travaux plutôt dans la tradition de l'école de Chicago, plutôt culturaliste, plutôt fonctionnaliste, où le problème est pensé complètement différemment. Et pour aller à l'essentiel, ce que ces auteurs vont mettre en évidence, c'est que les citoyens n'ont pas, on peut dire, spontanément ou par nature ou par miracle, ne sont pas immédiatement porteurs de valeurs civiques, et qu'il y a surtout de grandes disparités dans la société américaine, et que finalement, ce qui leur paraît déterminant, c'est la socialisation politique. En disant que finalement les groupes sociaux sont divers, et de cette diversité, en très grande partie nourrie par l'immigration, crée aux États-Unis des problèmes particuliers avec une coexistence de systèmes de normes et de valeurs qui font que les perceptions des citoyens et les attentes à l'égard de leurs élus vont être extrêmement différentes, et que, dit-il, pour une grande partie des Américains d'origine étrangère, surtout venant de pays qui étaient initialement moins développés, au fond, pour eux, leur idée, c'est qu'ils importent, où ils continuent plutôt à reproduire le modèle de relation assez paternaliste, clientéliste, dans lequel ils ont été initialement socialisés, ou une culture qu'ils ont importée, et que finalement, le modèle civique américain, puritain, etc., n'est qu'une des formes de relation aux politiques, et que cette forme est concurrencée par beaucoup d'autres. Et puis deuxièmement, ils mettent aussi l'accent, et il y aura un texte de Parsons qui va, on peut dire, faire un grand choc, et qui va d'un certain côté aussi légitimer le fait que étudier la corruption peut être un sujet de science sociale légitime, parce qu'il va consacrer un article sur qui n'est pas consacré à la corruption, mais qui porte justement plutôt sur les choix stratégiques des individus. Et donc, en gros, il prend justement l'exemple de la corruption dans le cadre municipal pour dire que c'est vraiment un regard non sociologique qui interprète les pratiques de demande d'intervention et de relations corrompues comme un dysfonctionnement social, comme une perversion. Il dit le problème est mal vu sociologiquement, dit-il. Moi, je le perçois comme une pratique qui cherche à résoudre un problème bureaucratique ou un problème d'efficacité, et que donc c'est en tant que solution à un certain nombre soit de difficultés d'accès à des services, soit d'incertitudes sur les règles applicables, soit d'urgence, etc. Donc il développe tout ça, que finalement des individus entrent dans une relation corrompue avec l'autorité publique. Et pour lui, donc c'est ce qui explique le fait qu'au fond, une grande partie des citoyens trouvent tout à fait normal que leurs élus jouent avec les règles, hein, puisque c'est une façon donc de traiter un certain nombre de situations. Les théories du choix rationnel, on n'entre pas là-dedans, pousseront l'affaire très loin. Et donc il y a toute une série de travaux qui aujourd'hui sont assez étonnants, qui ont été produits dans la période 60-70 en particulier, sur la question de la corruption dans les pays en développement, mais qui étaient pris, vous voyez, comme finalement des situations qui désignaient des problèmes de fonctionnement dans les prises de décision, dans les obstacles bureaucratiques, etc. Donc, ce n'est pas du tout des travaux qui, comme on le dit quelquefois, légitimaient ou justifiaient la corruption, mais ils cherchaient à l'expliquer, hein, par, disons, l'état d'un certain fonctionnement social. Voilà, un peu plus tard, un autre courant tout à fait différent. Alors, on est d'accord, ces courants ne substituent pas l'un à l'autre, on ne tourne pas les pages, hein. On trouve plutôt de la superposition, mais j'ai essayé de retenir les principales couches. Dans les années 90, avec le développement, on peut dire, de la sociologie, de la communication, de l'information, toute une série de travaux à base empirique vont plutôt mettre l'accent sur, vous voyez, la question du niveau d'information des citoyens. Et donc ça s'inscrit dans les travaux qui relèvent de ce qu'on appelle les travaux sur la rationalité limitée, hein, en disant que la rationalité pure des acteurs, que ce soit des dirigeants, des chefs d'entreprise ou des électeurs, la rationalité pure complète n'existe pas, ou c'est un mythe, puisque finalement chacun décide toujours avec des informations partielles sur la situation, avec un éventail de choix toujours limité, subit un certain nombre d'influences, etc. Donc, ce courant de rationalité limitée donc met l'accent sur, finalement, quelle est l'information dont disposent les citoyens, en gros, avant d'aller voter, et dans quelle mesure, autre chose, dans quelle mesure cette information a-t-elle un impact sur l'orientation des votes. Alors, un travail intéressant a été fait par Timothy Fackler sur une longue période, presque un siècle, 1890-1992, sur les élections présidentielles américaines. Bon, c'est un travail assez macro, mais qui est quand même basé donc, sur l'existence de journaux, leur diffusion et la part dans les journaux d'informations données sur les dans les campagnes présidentielles sur les candidats. Donc en gros, son premier résultat, hein, je synthétise beaucoup, c'est que jusque dans les années 30, on peut considérer que l'information ne joue pas. Soit il n'y en a pas, soit c'est de l'information purement locale ou de l'information qui est tenue par les machines politiques locales. Donc l'impact de cette information est considéré comme finalement ne permettant pas à un citoyen de finalement de, de faire réellement des choix. Donc on peut dire que c'est de la presse partisane. Le contenu des articles est un contenu qui met beaucoup l'accent sur soit ce que le candidat a déjà fait, soit sur ses promesses, etc. Donc l'idée qu'il va être efficace, il va rendre des services, il va faire ce que les autres ne peuvent pas faire est un petit peu la dominante. Pour lui, donc, il y a un changement à partir des années 30 qui s'explique essentiellement par le développement de médias nationaux, donc d'abord des journaux, et il emploie cette expression, il parle de désenclavement de l'électorat. C'est que donc les électeurs sont capables de faire une différence entre un vote pour, disons, leur maire ou leur gouverneur, et puis le vote pour le président des États-Unis, et qu'il y a donc des informations qui sont différenciées. Et là, il relève le développement. D'abord, il y a beaucoup plus d'informations précises sur les personnes, sur leur trajectoire, etc. Et puis également des informations qui, on peut dire, renvoient à des critères d'intérêt généraux. Donc sur finalement quel est le sens, quels sont les projets en termes de bien commun de tel ou tel candidat par rapport à tel autre, on les compare, etc. Et il dit que donc à partir de cette période, il devient rationnellement possible, rationnellement possible, de sanctionner celui qui ne respecterait pas les règles du jeu démocratique. Mais que lui ne relève aucun automatisme. La dernière période qu'il mentionne, commence d'ailleurs dans sa typologie assez tôt, dans les années 50, avec surtout le développement des radios, puis des télévisions, où là, dit-il, en fait, il y a une croissance considérable de l'information qui devient tellement diversifiée, au fond, qu'il est extrêmement difficile de savoir, à moins d'aller les observer, mais ce n'était pas le cas, au fond, quelles sont les informations que les citoyens récoltent et comment est-ce qu'ils hiérarchisent les éléments de cette information. Mais il montre quand même que à partir de cette période-là, il y a une forte corrélation entre, d'un côté, une corrélation, pardon, entre le fait de beaucoup s'informer, de lire, d'écouter, par des enquêtes. Les citoyens disent entre ceux qui s'informent beaucoup et ceux qui s'informent peu, très relié à l'intérêt pour la politique, et également lié à, finalement, une capacité critique. C'est-à-dire, on a l'impression que plus le citoyen recueille de l'information, plus il entre dans les discussions sur la matière politique, les pouvoirs des uns et des autres, les idéologies en présence, etc., et plus il est lui-même capable de développer un point de vue personnel sur ces situations-là. Donc, ces théories sur l'information continuent, si j'insiste, à avoir aujourd'hui beaucoup d'importance, ne serait-ce que, par exemple, quand on essaie de comprendre pourquoi, je dis pour la France, par exemple, mais, dans telle commune, un élu qui est stigmatisé pour des pratiques, qui a été condamné, qui fait un retour en politique, etc., va finalement obtenir l'adhésion et la confiance d'une partie de ses citoyens. On voit bien l'écart qu'il y a, quand on fait des entretiens, entre l'information locale détenue par les personnes. Nous, on sait ce qu'il fait. On est bien informé de ce qui se passe ici. Et le discours négatif contre X ou Y, il vient d'ailleurs. C'est les autres, c'est la presse nationale, c'est Paris. C'est le parti qui règle des comptes contre lui. Mais nous, la bonne information, on l'a. Donc, on voit bien que cette dimension-là est une dimension, tout à fait intéressante, même si elle est difficile, évidemment, véritablement à quantifier. J'avance, j'en ai plus que deux. Une cinquième approche théorique s'est développée, disons, à partir des années 70, dans un sens, on pourrait dire, de psychologie sociale. Puisqu'au fond, ce sont des travaux qui ont été menés sur des petits groupes. Quand on dit petits, un peu à la taille des États-Unis, mais enfin, c'est pas, par exemple, par des sondages, hein, mais par des tests qui ont été faits pour comprendre un certain nombre de situations. Et donc, c'est une approche qui est dite en termes de la théorie des échanges implicites. Donc là, ils partent toujours du même constat, hein, qui est l'écart entre ou le paradoxe que constitue le fait de renouveler la confiance à des gens mis en cause. Donc leur point de départ est le suivant, ils disent quand on met les personnes dans un certain type de dispositif et qu'on essaie, vous voyez, des focus groups, des groupes de discussion, etc., qu'on les fait parler, qu'on les écoute, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui détermine leur choix, ce n'est pas le niveau d'information. Ce n'est pas non plus, comme on le présuppose justement de façon moraliste, le fait que les citoyens seraient d'abord à la recherche d'avantages directs qu'ils auraient obtenu ou qu'ils souhaiteraient obtenir. Les citoyens ne sont pas d'abord intéressés, on peut dire, matériellement. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les choix reposent sur un certain type de raisonnement et que les jugements qui sont finalement portés et qui vont conduire à soutenir ou à ne pas soutenir tel ou tel candidat sont en fait une forme d'arbitrage, hein, des arbitrages entre, trois grands types de données. Évidemment, l'information, ce que l'on sait sur le candidat, sur ce qu'il a fait, sur ses projets, mais surtout sur les positions fondamentale qu'il défend. Presque, vous voyez, ses croyances majeures, on va dire son idéologie, typiquement, par exemple, quand l'étude est faite, dans les années 70, le fait de savoir si le candidat est favorable ou non la guerre du Vietnam, la façon dont il se positionne par rapport à l'Union soviétique sont des points de référence fondamentaux. Et puis quand même, en troisième ligne, l'idée que aussi on s'intéresse quand même aux résultats. S'il a déjà été élu, on s'intéresse à ses résultats ou à ses projets en termes de politique publique. Est-ce qu'il va favoriser les programmes éducatifs ou bien est-ce qu'il veut réduire les budgets sociaux? Quelle est son attitude à l'égard des minorités? Voilà. Donc, ces travaux, donc ils sont une série Rundquist, Strom et Peters en 77, vont mettre en évidence le fait, enfin, cette posture ou cette position du citoyen arbitre qui, au fond, hein, fait des échanges, des compensations, c'est ça qui parle d'échanges implicites, entre un certain nombre de données. Mais ce qui est évident, c'est que, par rapport dans les données dont disposent les citoyens, toutes n'ont pas le même poids, que les citoyens hiérarchisent, classent et hiérarchisent, et que, deuxièmement, par rapport à ma question un petit peu simplette du début, il est évident que les critères moraux et les critères juridiques ne sont pas des critères qui viennent en première ligne dans l'arbitrage que les citoyens font entre telle et telle information. Et que justement, c'est au contraire, ces critères moraux et ces critères juridiques sont très souvent contrebalancés par justement la force de conviction et le pragmatisme. Les résultats obtenus ou attendus d'un candidat. Alors, il y a des nuances. En gros, ce qui semble, c'est que ceux qui ont tendance à voter républicain seraient plus sensibles que d'autres, justement, aux convictions fondamentales, alors que les démocrates tiendraient un peu plus compte des dimensions juridiques et surtout morales, disons, du profil des candidats. Mais enfin, il n'y a aucun automatisme. Et la question de l'incertitude sur les facteurs de décision reste très important. Dernière approche que j'ai mentionnée tout à fait au début, qui va avoir un rôle, on peut dire, très important et complémentaire à celui sur les échanges implicites. Donc, c'est une approche très constructiviste qui est développée à partir de la fin des années 80, donc 80. Publié à partir de 89, puis il y aura toute une série de travaux par quelqu'un qui s'appelle Arnold Heidenheimer, qui est un sociologue plutôt culturaliste, et Heidenheimer affrontait toujours à la même situation de pourquoi est-ce que la confiance se maintient. Finalement, on reprend les approches culturalistes, un peu fonctionnalistes, des années 60 dont j'ai parlé, sur la pluralité des représentations. Il dit qu'à travers toutes les observations qu'il a pu mener, ce qui le frappe le plus, c'est à quel point les représentations de ce qu'est la politique et des responsabilités, des fonctions de l'élu sont multiples, et que vouloir ramener ça à des critères d'évaluation simples est un piège ou une pure facilité intellectuelle, enfin que ça ne correspond absolument pas à ce qui est observable, et que donc pour lui, il met l'accent sur l'hétérogénéité. Alors, il voit, si vous voulez, un résumé, bien sûr, il y a deux grands clivages, deux grands facteurs d'hétérogénéité. Le premier facteur sur lequel il met l'accent, c'est le clivage entre les insiders et outsiders de la politique. Donc, les insiders sont ceux qui sont, disons, bien évidemment, qui ont des responsabilités, ou même plus largement, ceux qui connaissent l'appareil politique, qui ont exercé des fonctions, qui sont proches d'eux, des gens qui connaissent le. Et par exemple, il va y mettre dans les insiders, il va mettre les fonctionnaires, par exemple. Et puis, les citoyens lambda. Et il montre d'abord qu'entre ces deux grandes catégories de personnes, les critères utilisés pour juger ce qui relève des atteintes à la probité, ce qui n'en relève pas, et pour ce qui en relève, l'échelle de gravité, ça peut en relever, mettre très peu grave, etc., ou bien être très grave, sur le type de sanction qui est attendu, s'il y a une atteinte à la probité perçue, considérée comme grave, mais alors sanctionner comment ? Sur tous ces éléments-là, en fait, les positions varient beaucoup entre ces deux grands groupes, insiders et outsiders, à la politique. Ce qui, dit-il, pose des problèmes, on peut dire, de gouvernement, très important, et des questions, un impact aussi très important sur la question de la légitimité des gouvernants, puisque si les gouvernants travaillent avec un système de normes et de valeurs qui ne correspond pas à celui partagé par une grande majorité des citoyens, l'écart est fort, voire considérable, et les risques de heurts importants. Et c'est là où il, pour avancer, il donc produit une typologie assez simple, donc il a appelé, alors, corruption entre guillemets, corruption noire, corruption grise, corruption blanche. Donc, corruption noire, ce sont les situations, alors dans l'archétype, c'est, disons, l'enrichissement personnel. Corruption noire au sens où il y a un accord normatif des outsiders, des citoyens, et des insiders du personnel politique, pour considérer que c'est une pratique inacceptable, grave, et qui doit être sanctionnée. À l'autre extrémité, corruption blanche, on est plutôt cette fois de l'ordre de la déviance, c'est-à-dire que corruption n'est pas un bon mot, mais passons, ça fait image, corruption blanche, des comportements qui sont considérés comme outrepassant un peu les règles, mais qui sont toutefois considérées comme acceptables par les uns et par les autres, par les citoyens et par les élus. Typiquement, les demandes d'intervention, les lettres de recommandation, une grande partie du clientélisme est globalement perçu finalement comme un comportement tolérable, même s'il est perçu comme déviant. On voit bien que ce n'est pas un comportement disons, normal, mais malgré tout, il est considéré comme acceptable. Mais ce qui fait l'intérêt de son travail, c'est qu'il montre que en dehors de ces deux groupes, comportement noir et blanc, il y a en milieu une très grande zone grise de comportements sur lesquels il y a des désaccords très importants entre les perceptions du personnel politique et les perceptions des citoyens. Et que c'est finalement très souvent dans cette zone-là que finalement les problèmes les plus difficiles se rencontrent. Alors, pour essayer de le différencier, il va aussi essayer de trouver des critères en fonction, on peut dire, de... Vous voyez, culturaliste, donc de système culturel, hein. Et il met en avant, disons, il fait une sorte de classification de, disons, quatre formes, hein, de conception de la pratique démocratique, et qui va depuis, donc une conception, on peut dire, qui est la plus restrictive, hein, ou la plus exigeante, donc ce qui relève ce qu'il appelle la civique culture puritaine, hein, donc très très ancrée sur le respect strict des règles d'abord, hein, des règles juridiques et des exigences morales très très importantes, et puis à l'autre extrémité. Il met en avant le fait qu'existent aussi aux États-Unis des systèmes de, disons, de des traditions communautaristes qui font que les règles qui sont reconnues comme étant légitimes sont les règles qui sont partagées par le groupe, et à la limite, peu importe les règles générales, les règles nationales. Et finalement, donc, on jugera les politiques à leur capacité à se conformer aux règles de la communauté. Hein. Voilà. Même si ce sont des règles qui sont légalement transgressives, mais elles seront complètement intégrées. Voilà. Puis entre les deux, il a deux modèles intermédiaires. Le modèle, disons, des ce qu'il appelle le boss system, le système du patronage, qui sont en fait des cultures dans lesquelles il y a pas un esprit communautaire où il y a une grande unité. Il y a où le personnel politique est différencié, mais il est presque instrumentalisé. C'est-à-dire que le personnel politique est là pour servir une communauté, un groupe, etc. Donc, dans la mesure où il fait cela, il sera soutenu, et dans la mesure où il est perçu comme une menace pour, disons, le groupe ou la circonscription, il peut se trouver donc mis en cause. Et puis, le troisième, qui est le plus proche de civil culture, c'est le modèle, vous voyez, tout ce qu'on a pu appeler les entrepreneurs politiques, c'est-à-dire ces leaders qui, finalement, se présentent souvent, d'ailleurs, au début, comme des anges aux mains propres qui vont rétablir la pureté, relancer l'économie et assurer la paix sociale et protéger les citoyens contre toute une série d'agressions, etc. Finalement, donc des entrepreneurs politiques qui, justement, enfin, pour lesquels la question de la réalisation des fins met souvent entre parenthèses la question des moyens. Et donc, sur ces quatre modèles, selon lui, finalement, enfin, le modèle communautariste, le modèle du patronage et le modèle de l'entrepreneuriat nourrissent beaucoup la zone grise. Hein. La culture, la civiculture puritaine, évidemment, en principe, ne fait pas de place aux zones grises. Donc voilà un peu comment ce parcours a été intellectuel, hein, peut-être retracé, même si évidemment il n'est pas exhaustif. J'ai encore un peu de temps, bien. Alors maintenant, je vais essayer de vous rendre compte de travaux que nous avons menés récemment et qui c'est une façon de reprendre un peu ces questions-là, de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut les opérationnaliser, les mettre à l'épreuve aussi de terrain concret. Je dirais que ce sont surtout les deux dernières approches théoriques qui nous ont servi, donc celle sur les échanges implicites, c'est-à-dire considérer que les citoyens se forment des jugements et arbitrent entre toute une série de facteurs et que dans ces facteurs-là, les facteurs moraux et juridiques ne sont vraisemblablement pas les plus prégnants, hein. Et puis l'autre, les approches de la tradition d'Heidenheimer sur la diversité, la pluralité des conceptions, de la corruption, la diversité des échelles de gravité, des modes de sanction. Alors nous avons fait trois choses pour aller à l'essentiel. Nous avons fait deux études qualitatives et une étude quantitative. Le qualitatif a servi en partie à préparer le quantitatif. Donc je les donne et puis je reviendrai sur chacune des trois en vous donnant quelques éléments de résultats qui me semblent aller dans le sens de ce que j'essayais de présenter. D'abord nous avons fait de l'observation et nous avons fait trois monographies sur des communes françaises, on les appellera ABC, on leur a trouvé un nom de fiction. Deux dans lesquelles on se trouve dans une situation, celle qui nous intéresse, où des élus qui avaient été condamnés, qui avaient eu des peines d'inéligibilité, donc qui s'étaient retirés de la politique, finalement s'étaient représentés, avaient été réélus, et certains ont eu plusieurs mandats à la suite de ce retour en politique. Hein. Et puis, souci scientifique, nous avons pris une commune de contrôle, donc une commune où, il ne faut pas dire ça négativement, c'est-à-dire que ce n'est pas une commune où il ne s'est jamais rien passé, une commune où il n'y a jamais eu d'affaires, de scandales, etc., où au contraire la vie politique est très stable, le maire fait deux ou trois mandats, puis c'est son premier adjoint qui lui succède, etc. Hein, voilà. Mais qui sont des villes moyennes françaises, hein, parce que la dernière, ça peut être c'est pas une commune rurale, par exemple. Ce sont toutes des villes qui ont autour de, disons, entre 40 et 60, 70 000 habitants. Donc c'est voilà, avec toute une des activités économiques. Voilà, il n'y a dedans aucune grande ville française. Hein. Deuxième chose, nous avons fait toute une série d'entretiens de groupes. Où nous avons présenté des scénarios à des personnes dans des groupes homogènes, socioculturellement. Voilà. Je donnerai quelques éléments là-dessus, ce qui permet d'aller un peu plus avant dans la compréhension des arguments que les personnes donnent pour hiérarchiser les comportements, justement séparer le noir, le gris, du blanc, pour donner des éléments sur la gravité, éventuellement sur les sanctions. Et puis, donc sur cette base-là, nous avons également donc fait une enquête sur un échantillon représentatif, quand même important, puisqu'il y avait plus de 2000 personnes, sur la base d'un questionnaire qui, et c'est le plus important à rappeler, ne présentait des questions directement liées aux atteintes à la probité que tout à fait en fin de questionnaire. C'est-à-dire quand le contact était fait avec la personne, elle savait que c'était sur un sujet d'actualité. Il y avait une première partie qui permettait en fait de repérer un peu le système de normes et de valeurs des personnes. Il y avait une deuxième partie qui portait sur, en gros, leur image du politique, des élus, de la fonction, des qualités attendues, mais aussi de la confiance dans les institutions, etc. Et ce n'était donc à la fin qu'intervenaient les questions explicitement alors sur la corruption. Parce que vous voyez bien, sinon, l'effet de brouillage que peut avoir, évidemment, si on organise les choses dans un sens différent. Alors, pour moi, si vous voulez, le premier résultat, Et c'est bien quand de temps en temps, là, c'est évidemment, vous vous doutez, c'est du long travail de préparation, quand tout d'un coup les résultats donnent des surprises. Et la première surprise que nous avons eue sur la base des résultats, dont je parle d'abord de l'enquête quantitative, c'est qu'au fond, je passe sur les opérations statistiques menées par des gens extrêmement compétents, nous nous attendions à ce que, disons, la variable explicative la plus fondamentale soit oppose, hein, ou soit celle qui oppose les citoyens qui considèrent que la corruption est un phénomène grave, qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a toujours plus, etc., versus ceux qui considèrent que, etc. Bon. Et nous étions persuadés que finalement, donc les questions qui étaient dans la troisième partie, si vous voulez, rassemblées en échelle, permettraient de structurer les réponses, vous savez, donc, c'est-à-dire créer le maximum de différence entre la population. Eh bien, la réponse est non. Ce qui, de loin, disons, dans cette enquête-là, hein, voilà, je vais prendre les choses comme ça, différencie la population, c'est le degré de tolérance ou de réprobation au favoritisme. C'est-à-dire, finalement, vous voyez, un comportement qui est à la limite de la zone grise et de la zone blanche. C'est-à-dire des comportements où beaucoup de gens hésitent à le qualifier de comportement répréhensible. Et donc, voilà. Donc, par exemple, je vous donne les... il y en avait d'autres, mais il y en a quatre qui étaient en plus... dont les réponses étaient très, très fortement corrélées entre elles. C'est-à-dire, si vous aviez... donc, c'était pas une échelle de gravité, très grave, grave, peu grave, pas grave du tout. Hein. Les probabilités de réponse, quand on avait les réponses à une des questions, les probabilités de réponse identiques à celles d'à côté, aux autres questions, étaient extrêmement fortes. Donc, sont corrélées, obtenir une lettre de recommandation pour avoir d'un élu, pardon, obtenir d'un élu une place de recommandation pour avoir une place en crèche, utiliser ses relations politiques pour obtenir un travail, adhérer à un parti pour obtenir un logement social, tout à fait autre chose, accepter une croisière payée par un client. Donc nous n'avons pas le temps de jouer, mais sachez que pour les deux premières, la lettre de recommandation et utiliser ses relations pour obtenir du travail, dans le premier cas, c'est 3/4 des personnes qui trouvent que c'est peu grave ou pas grave du tout, que c'est 2/3 dans le deuxième cas, hein, pour les relations, que c'est 50% pour adhérer à un parti pour obtenir un logement social, et c'est la même chose pour accepter une croisière payée par un client. Alors, on peut trouver ça complètement anecdotique. Un de mes éminents collègues économistes, quand nous avons présenté les résultats, je crois que Pierre Rosanvallon était là, et il était tellement sidéré de voir ça, il a dit mais je ne comprends pas, c'est la corruption pour les nuls. Parce qu'évidemment, ce à quoi il s'attendait, si vous voulez, c'est que ce qui fasse réagir, c'est les grosses affaires. C'est-à-dire que statistiquement, vous comprenez, dès qu'on présente une affaire comme, vous voyez, Carignan vendre le marché des eaux pour financer sa campagne, enfin, évidemment, le niveau de réprobation est considérable. Donc, c'est que ça ne différencie pas. Par contre, ce qui différencie, et assez nettement, c'est un axe construit sur ceux qui ont, disons, on peut dire, pour le résumer, entre 2/3 et 1/3, hein, 2/3 des personnes qui sont plutôt tolérants au favoritisme, même quand je dis plutôt, vous avez vu, c'est du plutôt, quoi, du plutôt lourd, à 1/3 qui sont au contraire, hein, qui ont une attitude, on peut dire, assez rigoriste et qui considèrent que même s'il y a des bonnes raisons, hein, comme l'urgence, la difficulté d'avoir des places en crèche, de trouver logement, d'avoir du travail, donc si vous voulez, le piège de ces questions, enfin, justement, le jugement qu'on essayait, la balance qu'on essayait de vérifier chez les citoyens, c'est que même quand il y a un fait justificatif, ou une justification importante, il y a quand même 1/3 des gens globalement qui se déclarent, hein, qui se déclarent contre ce type de pratique. Voilà, donc les choses ont été remises en place, puisque dans notre population, le deuxième axe, effectivement, était bien celui sur la perception du degré de corruption et de sa gravité, donc qui oppose ceux qui le considèrent que c'est très important à ceux qui, au contraire, considèrent qu'il y a peu de corruption, que c'est peu grave, etc. Voilà. Et je ne raisonne que sur ces deux-là. Le résultat intéressant, me semble-t-il, que l'on peut tirer de ça, c'est justement donc l'importance des attitudes ambiguës, ambivalentes vis-à-vis de ce type de comportement. Donc, typiquement, c'est l'illustration de la zone grise d'Heidenheimer dont je parlais. Parce qu'en effet, si on regarde les types cohérents, hein, quand on croise les deux, il y a à peu près un peu plus de, disons, on peut dire un peu plus de 25%, mais ils sont 26, hein, qui sont, on peut dire, des personnes qui finalement trouvent que dans la société française, il y a relativement peu de corruption, que les élus sont plutôt honnêtes, qu'ils ont plutôt confiance dans les institutions, etc., etc., et qui finalement sont aussi tolérants à ce type de petites, disons, transgressions, et encore, je ne sais pas s'ils emploieraient le mot. Donc pour eux, le favoritisme, c'est vraiment pas un problème, c'est acceptable, etc. Donc ça fait 25%, si vous voulez, de gens qui ont sur ces questions-là une vision assez apaisée, qui considèrent que c'est minimal, que ce n'est pas une menace pour la démocratie, tout ce qu'on veut. À l'autre extrémité, 25% encore, on a un autre type cohérent qui est évidemment l'inverse, ceux qui trouvent qu'il y a beaucoup de corruption, que les élus sont plutôt corrompus, qu'il y en a de plus en plus, qui n'ont pas confiance dans les institutions, etc., et qui estiment que tous ces comportements de favoritisme dont j'ai parlé sont aussi, enfin, ils les réprouvent très fortement, ils trouvent que c'est grave, voire très grave. Donc ils ont, d'un certain côté, aussi un pôle qui est cohérent dans ces positions. Mais comme vous voyez, je vous donne les chiffres exacts, enfin, 25 plus 25, ça fait quand même que 50, c'est plus exactement 26 et 24,5, mais enfin ça ne change rien. Donc on se retrouve avec 50% de la population enquêtée, hein, qui au contraire a des positions, on peut dire, ambivalentes, paradoxales. Donc il y a d'un côté, le groupe le plus important est un groupe qui en même temps trouve que dans la société française, il y a beaucoup de corruption, que les élus sont plutôt corrompus, qui sont plutôt défiants à l'égard de toutes les institutions, etc., etc., et qui, en même temps, sont tolérants à l'égard du petit favoritisme. Alors, soit, ça peut être interprété de différentes façons, soit parce qu'ils trouvent que c'est dérisoire par rapport aux grandes affaires, soit parce que c'est des situations dans lesquelles ils s'identifient eux-mêmes et ils considèrent que dans la mesure où eux pourraient se trouver dans cette situation-là, finalement, ce n'est pas grave. Donc vous voyez, une position qui est paradoxale. Et puis une autre qui est assez... Donc 35% de la population. Hein, et une autre position assez, qui est la plus faible, mais qui est aussi une position contradictoire, donc, mais qui est assez intéressante sur le profil. Ce sont des personnes qui considèrent que dans la société française, il y a peu de corruption, que les élus sont plutôt honnêtes, ils ont plutôt confiance dans les institutions, mais que le petit favoritisme n'est pas tolérable. Et donc, quand on regarde un peu sur tout ce groupe-là, on voit bien c'est un public avec un niveau, une population, pardon, un niveau socioculturel assez élevé. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, et des personnes qui, dans leur orientation politique, vont être plutôt proches, disons, du Parti Vert, hein, des écolos, voire de l'extrême gauche. Mais on trouve aussi un peu, quand même, un peu de tout. Mais c'est aussi un groupe qui est finalement un groupe qui est, d'un certain côté, paradoxal, ou très puriste. Enfin, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a peu de corruption, mais qu'en même temps, le favoritisme est très grave. Donc, ça, c'est un premier, disons, un premier type de résultat. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Mais au moins, ce que montrent ces résultats quantitatifs, c'est que à quel point, vous voyez, on peut sortir très facilement des conceptions, on peut dire, dichotomiques sur la perception des élus. Et il y a des résultats aussi sur, finalement, la façon dont les citoyens conçoivent le métier politique, puisqu'il y avait toute une série de questions qui ont pu être regroupées. On voit bien aussi, on dit que globalement, il y a une image négative, mais en fait, il n'y a qu'à peu près qu'un tiers, selon nos regroupements, un tiers des personnes qui ont réellement une image, on peut dire, négative de bout en bout, c'est-à-dire depuis les motivations, la façon d'exercer, les résultats, etc. Les deux tiers des personnes, au fond, ont une conception, on peut dire, assez critique de la politique, hein, mais qui, souvent, parce qu'elle est insatisfaisante, soit parce qu'elle est faible, par exemple, hein, les politiques n'ont pas les moyens de réaliser ce qu'ils souhaitent, soit parce qu'ils agissent sous contrainte, hein, sous contrainte économique. Donc, les conceptions de la politique sont souvent aussi plus diversifiées que ce que l'on croit. Je vais faire un choix. Je vais faire peut-être le choix de conclure. Voilà, au besoin, on reviendra dans les questions sur le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement... Trois éléments de conclusion. Ce qui nous semble ressortir de tous ces travaux, c'est qu'effectivement, dans les jugements qui sont portés sur les activités politiques, il y a bien un double registre, qui est vraiment une vraie tension entre la revendication ou la référence, on peut dire, à des principes axiologiques, normatifs, généraux, hein, qui conduisent à réprouver très fortement tout ce qui est des atteintes au bien public, et que ce premier registre, il est confronté, croisé, mêlé à toute une série de principes pratiques qui sont utilisés par les citoyens ou par nous dès qu'il s'agit de porter, dès que l'on ne parle plus en généralité, mais dès qu'il s'agit de porter un jugement précis sur telle personne, tel élu, telle situation concrète à laquelle on se trouve soi-même confronté. Et à partir de là, on peut dire donc que produit cette, ou comment interpréter cette tension, il y a, disons, deux lectures possibles. Un premier type de lecture considère que, finalement, les citoyens, les personnes, portent sur le milieu politique un jugement, je dis moral, hein, enfin, qui s'appuie sur des références ordinaires, les normes et les valeurs utilisées quotidiennement pour orienter les comportements et juger ce qui se passe en pratique. Et donc, à ce moment-là, il y a une confrontation entre ce système, ce mode de jugement, avec des critères ordinaires, appliqués à un monde politique qui, lui, apparaît de plus en plus comme fonctionnant avec d'autres règles et d'autres valeurs. Hein, d'où un jugement négatif qui vient du heurt entre ces deux critères de jugement. Donc c'est l'idée qu'on juge toujours les insiders de la politique comme ayant leurs propres règles, leurs propres logiques, leur propre monde, leurs connexions, etc. Et que les normes ordinaires, les normes sociales ordinaires, s'appliquent très mal dès qu'il s'agit de porter des jugements sur eux. Donc ça, c'est une première façon de voir. Ce que nous avons essayé de développer, c'était essayer de renverser ça et de se dire que oui, c'était peut-être trop simple, hein, et que dans la mesure où on demandait à des citoyens de porter des jugements sur des pratiques politiques, pourquoi ne pas considérer qu'au contraire, les personnes exprimaient d'abord un point de vue sur la politique. Il parle d'abord de la politique et qu'il ne juge pas, voilà, la politique avec les mêmes critères, avec les normes, mêmes normes et les valeurs que celles qu'ils appliquent à, au monde commun, à leur vie ordinaire. Et que donc, on trouve souvent dans les entretiens, dans les, que ce soit de groupes ou dans les observations que nous avons pu faire dans ces municipalités, le fait que finalement le monde politique est perçu assez communément, hein, même si ça prend des formes différentes selon le statut des gens, vraiment comme un monde à part, qui a ses, comme vous voyez, une société particulière, hein, ou un sous-entendu particulier, de la même façon d'ailleurs que le monde économique, hein, le monde de la finance, apparaît comme un monde assez déconnecté de notre monde ordinaire. Et d'ailleurs, on peut faire la preuve par les femmes, quand on regarde dans ces réponses, les types de... on fait la différenciation des réponses des hommes et des femmes. Les femmes font globalement plutôt partie des personnes qui considèrent que les élus sont plutôt corrompus, qui ont peu de confiance dans les institutions, etc. Donc, ils ont plutôt une attitude de défiance à l'égard des institutions. Et en même temps, curieusement, elles ont plutôt une bonne image du personnel des hommes politiques quand il s'agit de les caractériser avec l'idée qu'ils remplissent des fonctions très particulières. Vous voyez que c'est pas leur affaire, mais ils exercent des activités spécifiques qui nécessitent des capacités, des relations, etc. Donc cette idée, hein, que le monde politique finalement a ses propres règles est certainement une des confirmations, parce que c'est pas une nouveauté importante, mais qui permet aussi de comprendre, justement, si on reste sur ces questions-là, un certain niveau élevé de tolérance, puisqu'au fond, ben, c'est presque quand il y a un monde à part, donc on accepte qu'il y ait plus facilement des déviances que notre monde ordinaire. Donc il y a une sorte presque de logique à concevoir que finalement la politique a ses lois propres. On ne les connaît pas, on ne les approuve pas toujours, mais ça fonctionne un peu comme ça. Et puis la deuxième élément de conclusion, par rapport à on peut dire mon hypothèse relationnelle, je pense que le travail nous a fait évoluer, et on peut dire qu'on a plutôt, disons, complété, hein, les choses, en considérant que finalement les atteintes à la probité, c'est pas une question de personne, c'est pas une question de moralité ou de cohérence de responsabilité des élus, ça ne se passe pas qu'à deux, hein, avec les citoyens, mais ça se passe bien à trois. Une relation triangulaire, parce qu'en fait ce que l'on peut voir, c'est qu'au fond ces trois pôles, il y a d'un côté le pôle du décideur, qui est porteur par sa fonction de responsabilité particulière, jusque là ça va, mais aussi il est porteur de pouvoir, et le propre du décideur c'est d'avoir des pouvoirs, et le pouvoir c'est typiquement un pouvoir de déborder de la fonction, de pouvoir jouer avec les règles, de pouvoir les aménager. Donc il y a cette double face, disons, je dis, du décideur ou du responsable politique. Et face à lui, ou en interaction avec lui, il y a deux autres pôles. Il y a d'un côté, disons, pour appeler le demandeur, le solliciteur individuel ou collectif, hein, qui fait valoir ses intérêts. Il dit finalement, j'ai des besoins. Où je suis victime d'un arbitraire administratif, où ce dossier est bloqué. Enfin, vous voyez, les différentes formes de sollicitation. Et il est à la recherche d'un appui. Hein. Et il est prêt à légitimer sa cause. Parce qu'un des grands, un des résultats importants de l'enquête, c'est, que je n'ai pas pu développer là, c'est la multiplicité des justifications que les personnes sont capables de donner face à des transgressions. C'est-à-dire, on peut dire, ce comportement, je le trouve anormal, mais dans tel cas de figure, alors, on peut le comprendre, on peut l'excuser. Et l'éventail des justifications est considérable. Donc, un solliciteur qui a toujours des bonnes raisons d'agir, Il est capable d'argumenter fortement pourquoi on doit faire une exception pour lui, même si c'est une rupture d'égalité. Et puis, troisième élément qui me semble assez important et qui est venu aussi bien d'ailleurs d'observations dans les communes que dans les groupes, c'est l'importance de l'audience. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une relation à deux, vous voyez, on n'est pas dans un confessionnal, enfin, on n'est pas dans un échange clos comme ça. Au contraire, il y a de l'espace public. Et la question de la présence de l'audience et du rôle que les audiences peuvent avoir sur justement le type d'échange qui existe ou qui peuvent exister entre un décideur et un solliciteur sont considérables. Et c'est là, dans la question de l'audience, qu'apparaît très fortement la façon dont les citoyens ou les personnes concernées se représentent la fonction politique. Plus ils considéreront que les politiques sont là pour rendre des services, sont là pour être jugés sur des résultats, plus ils utiliseront des arguments pragmatiques, plus ils seront tolérants au fait qu'il y ait des arrangements qui se fassent entre X et Y. Et donc, on sent bien que cette audience, elle est tiraillée entre, d'un côté, l'existence d'un certain nombre de devoirs, et puis le fait aussi que finalement les conceptions pragmatiques de la vie politique peuvent rendre beaucoup plus compréhensibles ou admissibles des situations que les gens trouvent à la fois anormales mais en même temps tolérables.